Alors à vous, c'est Super Sonic. Régulièrement dans l'émission, le son prend du relief. Hors série Machin Machine. La culture a ses machines. Les machines ont leur culture et en relief aussi. Régulièrement, Supersonic s'ouvre au son 3D, versant en pratique, versant en tentative, avec des artistes, musiciens, gens de son, habitués ou non, des techniques en 3D. Pour vous, ça ne change presque rien, sinon qu'on vous suggère fortement de prendre un casque ou des oreillettes pour profiter de ce son qui vous entoure, qui vous immerge. Sans casque, ça marche moins bien. Et ce soir, Machin Machine en deux temps. Bonsoir à vous.
Bienvenue.
Et figurez-vous qu'au moment où nous mettons sous presse le festival Manifeste de l'IRCAM vient de commencer. L'IRCAM, l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique Musique, un des grands lieux en Europe où la recherche et le son se croisent. Manifeste, donc le grand moment où ces recherches se retrouvent sur diverses scènes à Paris. On en parlera tout à l'heure et on recevra Olivier Varusfeld, qui est un peu le monsieur son en trois dimensions à l'IRCAM. Comme c'est ce qui nous intéresse dans Machin Machine, ça tombe bien. Olivier Varusfeld est le responsable de l'équipe Espace Acoustique Cognitif à l'IRCAM. On fera un point avec lui sur les recherches en cours avant d'écouter un extrait de Les Incantadas de la compositrice autrichienne Olga Neuwirth, d'après Herman Melville, avec un très grand travail sur l'espace réalisé justement sur cette œuvre par les équipes de l'IRCAM. Déjà annoncé de temps donc, avant Olivier Varusfeld et Olga Neuwirth, il y a un premier temps, un temps dédié à une installation que nous allons recréer dans le studio 107 ce soir, et ceci avec vous Émilie Mousset, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Grâce à vous, on va continuer à varier les plaisirs dans Machin Machine. On essaye à chacun de ces hors-séries d'aborder différemment ce son en 3D. On n'avait jamais vraiment entendu une forme d'installation, parce que c'est ça que vous nous proposez ce soir, une installation qui s'intitule Prosodie, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Concert électroacoustique pour 12 haut-parleurs et 60 paires de petites et grandes oreilles. Alors nous avons les haut-parleurs, hein, voilà, ils sont mis en place, ils n'attendent que vous, ils n'attendent que le son, vous allez y projeter. Elle a une histoire déjà, cette pièce que vous avez composée, que vous jouez, voilà, cette installation. Alors normalement, ceux qui peuvent voir l'installation, la constater, eh bien, ils peuvent se balader au milieu des haut-parleurs. Ça va pas complètement être possible pour nos auditeurs ce soir, mais on va faire comme si en fait.
Oui, oui, en fait, à la base, c'est une proposition de concert électroacoustique, enfin, électroacoustique pour dire le dispositif d'orchestre de haut-parleurs, parce qu'au niveau de l'écriture en elle-même, c'est autant radiophonique qu'électroacoustique. Enfin, on va pas se lancer dans ces frontières qui sont quand même très poreuses. En tout cas, j'avais envie de travailler sur les liens très étroits qu'il y a entre la musique et le langage.
Ouais.
Ça, c'est de toute façon un sujet qui me passionne. Et je me suis aperçue assez vite que c'était quelque chose qui pouvait concerner de très près le rapport au son et à l'écoute des enfants.
Ouais.
Et comme dans mon goût pour le son et mon goût pour le fait de pouvoir le faire écouter et l'écouter ensemble et le faire partager de façon vivante, j'avais envie d'utiliser un acousmonium pour tout petit, c'est-à-dire détourner un petit peu ce dispositif d'orchestre de projection du son, qui est quelque chose d'assez passionnant en termes d'espace, d'écriture, de dramaturgie, pour en constituer un espèce d'orchestre de petits locuteurs qui sont donc au nombre de 8, et pas de 12, on est resté modestement à 8, mais qui permet du coup à des enfants à partir de 1 an d'être vraiment dans un concert acousmatique et d'être vraiment dans un rapport à l'écoute très archaïque.
Mm-hmm. Archaïque essentiel, vous voulez dire, fondamental, enfin la base de l'écoute, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et aussi parce que je trouve que les enfants ont un rapport à l'écoute qui est très prégnant, très lié aussi au toucher, mm-hmm. à la sensation que le son leur parle au corps. Et c'est vrai que quand vous parliez d'installation, c'est un concert pour petits et grands, ce qui fait que, en général, ça ne bouge pas tant que ça. D'ailleurs, les gens sont assis au milieu des haut-parleurs. Moi, j'y suis aussi. Je suis aussi là pour à la fois spatialiser le son en direct, mais aussi avoir des interventions vocales et sonores qui font que je suis aussi un lien humain vers l'écoute et que les enfants se retrouvent pas uniquement dans un espace
face aux machines.
Voilà.
Et donc ce soir, c'est un peu ce qui va se passer, parce que si nos auditeurs écoutent, et on leur conseille encore une fois de mettre un casque ou des oreillettes pour écouter l'émission de ce soir en particulier, grâce à ce micro binaural qui permet le son en trois dimensions et l'immersion dans le son, on va se retrouver au milieu de cet orchestre de haut-parleurs, cet acousmonium dont vous parliez à l'instant, Émilie Mousset, et on va se rendre compte d'une chose, c'est que si cette pièce, cette installation est destinée à des petites oreilles comme à des grandes oreilles, on entend aussi des voix, des petites voix à l'intérieur de cet orchestre de haut-parleurs, sont des captations de voix d'enfants aussi beaucoup, voire de très petits enfants. Est-ce qu'on peut se dire d'ailleurs que petit à petit, au fur et à mesure du déroulement de la pièce, on a l'impression qu'ils parlent de mieux en mieux, ou en tout cas de manière de plus en plus intelligible, ou alors c'est moi qui ai mal compris les balances qu'on a fait tout à l'heure?
Ah bah si, tant mieux si c'est ça que vous avez entendu, parce que c'est un peu ça le chemin clair, en tout cas de la composition, il est là, c'est partir du souffle pour aller vers le langage articulé, parce qu'effectivement, le thème de départ, c'est vraiment ça pour moi, c'est comment est-ce que ça peut s'articuler ensemble, le langage et la musique. Il se trouve que dans la perception sonore des enfants, c'est intrinsèquement lié, qu'ils acceptent souvent à la musique avant le langage, et puis si ce terme de prosodie m'a autant plu et servi aussi de mots un peu ressources pour alimenter mes recherches autour de ça, c'est parce que c'est vraiment ce qui concerne l'enveloppe musicale du langage et les enfants sont complètement là-dedans.
Vous avez dit, j'ai trouvé mon mot valise, prosodie,
oui,
qui rassemble beaucoup de vos centres d'intérêt, parce que c'est la voix, c'est le parler, mais c'est la musique à l'intérieur du parler, en fait, c'est ça la prosodie.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'il y a aussi d'affect à l'intérieur de la coquille même du mot, c'est ce qu'on met comme intention et c'est effectivement tout ce qui correspond à l'enveloppe musicale de la parole, donc aussi à des phénomènes, à des paramètres musicaux, le timbre, l'intensité, l'attaque, enfin vraiment des choses dont on peut parler en acoustique, mais qui sont aussi valables dans le langage. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont cherché là-dessus, sur les origines communes du langage et de la musique, mais des compositeurs ont vraiment fait des recherches passionnantes là-dessus, et c'est vrai que c'est un espèce de bain primordial qui se dissocie au fur et à mesure. Et c'est vrai que dans le chemin de la composition, j'avais envie de partir un peu de cette patte archaïque de quelque chose qui est très lié à la bouche, à l'oralité, mais vraiment au sens propre, à quelque chose de très, à une corporéité, et que le son a de façon très forte, moi je trouve, et je pense que c'est aussi pour ça que le son me plaît autant, c'est ce que ça ramène de concret et de rapport au corps très présent, et puis petit à petit pour aller comme ça vers le mot, le phonème, mais rester dans quelque chose qui est toujours tressé avec du musical et en fait essayer de décliner différentes évolutions dans l'acquisition du langage, de son rapport à la musique, mais que les deux soient toujours très très étroitement liés. Donc effectivement, c'est un concert pour tout petit et pour plus grand, mais qui est parti d'eux aussi et d'un grand temps de
résidence, non?
De résidence, ouais, et d'imprégnation que j'ai pu avoir. Alors c'est le projet, il est parti et porté par une structure qui s'appelle Athénor à Saint-Nazaire, qui fait vraiment des recherches assez importantes depuis une trentaine d'années maintenant, à la fois sur le champ de l'écoute et de la petite enfance. Donc évidemment, ma proposition les a super intéressés. Ils m'ont accompagnée sur ce projet-là. Et comme eux, ils font vraiment des choses très longues, des temps longs d'intervention dans des crèches, des écoles maternelles. On a pu, avec un percussionniste, une chanteuse, une danseuse, vraiment avoir le luxe d'avoir un long temps d'observation. Donc déjà, j'ai commencé par écouter les enfants en train d'écouter avant de commencer à proposer des choses. Mais voilà, ça s'est fait vraiment de façon très progressive. Et puis du coup, les matières, elles ont été aussi fabriquées avec eux. Elles venaient d'eux. Et puis, il y a aussi plein d'autres enfants qui sont hors contexte d'atelier. Mais c'est vrai que c'était très agréable à composer, de partir vraiment de leur matière vocale à eux et voir comment petit à petit on arrive au langage, en même temps on acquiert sa voix, à partir du moment où on a une voix, on peut dire qui on est et ce qu'on veut. Ça, je crois que c'est aussi assez important. Et puis que qu'à partir du moment où on nomme les choses, elles existent, et qu'il y a quelque chose comme ça qui boucle avec mon rapport au son assez émerveillé, de quelque chose est proféré, il est là, il existe, il est palpable, il est devant nous. Et c'est vrai que c'était aussi l'intérêt de travailler avec un dispositif vivant et de remettre les gens en situation d'écoute les uns avec les autres. Et
mais justement, vous, l'autre intérêt au-delà de celui de la composition en tant qu'artiste par rapport à cette installation, j'imagine, c'est aussi de voir le public écouter. C'est-à-dire, vous provoquez chez ce public, en particulier le public des tout-petits, une situation d'écoute face à donc cette population de tout-petits enfants qui forcément viennent, surprendre la compositrice que vous êtes sur une matière qui est votre matière essentielle, qu'elles sont.
Oui, et puis il s'est passé des choses vraiment très étonnantes pendant les représentations. Il y a eu des fois des espèces d'écoute, on avait l'impression d'être dans un espace sacré, presque trop pour moi, c'était presque intimidant, une écoute extrêmement fine et silencieuse, où là, du coup, l'écriture pouvait se dérouler un petit peu telle qu'elle est écrite, un peu comme on va le faire ensemble là, en essayant le dispositif avec la tête artificielle. Et il y a eu pas mal d'autres fois, et c'est là, je crois, que l'intérêt du dispositif vivant aussi se manifeste. C'est que effectivement, les enfants, ils écoutent et ils interagissent. Et que comme mes matières, elles sont aussi très brutes, alors c'est très écrit, très monté, très travaillé évidemment, mais que je ne mets absolument aucun effet sur rien du tout, et que il y a des prises de son instrumentales, des prises de son vocales, et que tout est une histoire de tressage entre ces matières-là. Ça laisse aussi la place à l'auditeur, et je trouve qu'il y a quelque chose de passionnant là-dedans, dans le son. C'est la place qu'on laisse aussi à l'auditeur pour contribuer à créer par son écoute.
Dans l'œuvre elle-même,
dans l'œuvre elle-même, le côté actif de l'écoute. Et vraiment, il s'est passé des fois où les enfants, ou pas d'ailleurs, pas les enfants, il y a pu avoir aussi des choses qui se sont faites en groupe entre plusieurs enfants. Une petite fille, une fois, qui s'est mise à tourner autour d'une enceinte ou coller son oreille à la membrane sans l'éloigner. Des enfants qui interagissent avec la bande-son, mais de façon musicale, en fait, qui se retrouvent à soit répéter des choses qu'ils ont entendues, soit manifester quelque chose
qui les font réagir.
Et puis, de telle manière, enfin, jusqu'à ce que les auditeurs autour ne savent parfois plus très bien.
Ah oui, d'où vient le son?
D'où vient le son? Ah oui. Si ça vient des haut-parleurs, si ça vient des enfants. Et effectivement, il y a quelque chose qui se coécrit comme ça, dans une écoute vraiment très, très active et sensible, qui est assez fascinante et assez, pour le coup, très agréable à réaliser en direct et à jouer en direct.
Ah bah, ce qui va se passer aussi ce soir, c'est la contribution de votre propre voix sur ces sons que vous projetez, vous, dans les 8 haut-parleurs qui entourent cette tête artificielle qui est un micro, deux oreilles autour d'un visage, et ces deux oreilles sont les micros qui vont permettre à nos auditeurs ce soir d'entendre Prosodie, votre pièce, Émilie Mousset, de l'entendre en relief, d'être immergé complètement dedans, et il y aura de temps en temps votre action à vous, votre voix, il y a un diapason, je crois, à un moment donné, c'est ça, hein, c'est un diapason que vous faites tourner autour de notre tête, hein, de la tête de l'auditeur, c'est comme ça que ça fonctionne ce soir, encore une fois, écoutez au casque, écoutez avec des oreillettes, ça va vous permettre de profiter pleinement de cette installation qui ouvre ce soir ce nouveau numéro de ce hors-série de Supersonic, ce nouveau numéro de Machin Machine, ces émissions dédiées au son en 3 dimensions. Donc, c'est vous notre invité, première invité, Émilie Mousset, ce soir, avec donc l'intégralité de Prosodie. On a compris l'esprit, maintenant on va écouter la lettre, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Merci et installez-vous, c'est à vous. Je précise qu'il y a une vidéo sur le site, on vous voit travailler justement sur Prosodie dans le studio 107 de la Maison de la Radio.
Thank you. Thank you. J'aime bien parler.
Ouais, t'as toujours parlé.
Oui. Oui.
Pourquoi?
C'est quoi ça?
Ben...
Je sais pas.
Des oreilles.
Des oreilles.
Et les oreilles.
Les dents.
Quoi?
au clair de la lune.
Petit poisson dans l'eau, nage droit.
Oh, attends.
Oh non.
On en sort de Prosodie, Prosodie, une installation sonore composée par Émilie Mousset qui nous le propose là ce soir dans ce nouveau numéro de Machin Machine sur France Culture dans Supersonic. Et vous vous réinstallez à la table pour faire une petite conclusion après cette présentation de cette pièce, Émilie Mousset. J'ai lu quelque part que c'est 8 haut-parleurs, voire c'est 12 haut-parleurs parfois, possiblement, dans cette installation de Prosodie, ces voix d'enfants sont brutes, encore une fois, hein, pas manipulées, mais que vous utilisez dans votre cette forme électroacoustique de composition. Vous envisagez, semble-t-il, à un moment donné, un usage documentaire de ce dispositif. C'est quoi l'idée ?
En fait, l'idée, c'est de pouvoir redonner un petit peu toutes les couches de recherche et les strates de réflexion qu'il y a eu autour de ça, parce que, évidemment, j'ai passé pas mal de temps à observer, écouter des enfants, donc autant en atelier de création sonore qu'avec des enfants d'amis ou ceux que j'ai le loisir, moi, de façon privilégiée, de pouvoir observer, écouter et avoir un rapport au son.
Ils étaient tous là.
Ils étaient tous là. Ils m'ont tous suivi. Non, et du coup, ça m'a aussi permis de lire beaucoup, par exemple de retrouver la recherche et les écrits de quelqu'un comme Tomatis, qui à la fois travaille de façon très précise sur la voix de la mère, et on sait évidemment que le rapport au son de l'enfant, il est aussi de façon, là, encore une fois, archaïque, très liée à ça.
Il paraît que c'est le premier sens qui se développe, c'est le son, l'ouïe en tout cas, à l'intérieur du ventre de la mère, et que la voix de la mère est effectivement une sorte de son matrice.
Voilà. Oui, et puis que c'est quasiment le seul son qui n'est pas filtré, ou en tout cas pas filtré comme les autres, puisque c'est le seul qui provient à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. Donc il y a vraiment un rapport à ça. Donc effectivement, dans le rapport au langage aussi, il y a des milliards d'émissions de radio passionnantes qui ont été faites là-dessus.
Et notamment sur Tomatis, donc, qui était un médecin qui a notamment soigné Gérard Depardieu. Au tout début début de sa carrière.
Gérard Depardieu, je savais pas, mais il y a beaucoup de chanteurs d'opéra en tout cas, puisque voilà, il y a toute une méthode de rééducation comme ça par l'oreille. Enfin, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la latéralité. Enfin bon, des sujets passionnants, mais voilà, l'oreille et le langage, par exemple, c'est un de ses bouquins vraiment. Mais il y a aussi François Delalande qui a écrit La musique est un jeu d'enfant. Et puis, bref, je vais pas tous les citer, mais il y a énormément de choses qui ont été écrites là-dessus. Et ça m'a aussi permis de rencontrer des linguistes et des chercheurs en neurosciences. Parce que, en fait, à force de gratter ces sujets-là, c'est vraiment très ramifié et très, on peut aller assez loin, en fait, dans la compréhension aussi de comment est-ce qu'on dit les choses, mais comment est-ce qu'on les écoute, comment tout ça est lié, comment est-ce qu'on perçoit la musique, comment est-ce qu'on s'inscrit dans le monde qui nous entoure de façon sonore, et comment est-ce qu'on est nous avec notre voix à l'intérieur de tout ça.
Enfin, et ce serait ça la matière documentaire finalement amassée pour cette installation que vous pourriez utiliser?
Oui, en fait j'aimerais bien, mais parce que comme ma passion pour le son elle est à la fois musicale et radiophonique, je crois que je me suis mise à faire du son parce que j'écoute la radio depuis enfant et que ça vient vraiment de là, j'ai toujours envie de pouvoir aussi en fait j'aimerais vraiment bien en faire un documentaire radio qui mêlerait ces différentes recherches, à la fois des traces des ateliers, de tout le travail qui a été réalisé avec les enfants, mais aussi d'intervention d'amis artistes pour qui la musicalité du langage est vraiment une composante essentielle de la démarche. Donc,
dont le poète Jérôme Gamme, dont la poétesse Anne-Laure Pigache.
Oui, ça peut être voilà, des gens avec qui j'ai pu discuter de tout ça, que le sujet passionne évidemment, dont ils s'emparent eux de manière complètement différente, mais avec qui on a un échange vraiment fécond, avec qui on a pu travailler ensemble sur des projets. Enfin, voilà, j'aimerais beaucoup les solliciter pour ça, et du coup, à la fois faire quelque chose avec des chercheurs, avec ces artistes qui travaillent d'une autre manière que moi la musicalité du langage, et puis redonner aussi à entendre tout la sédimentation et le processus de recherche, parce que ça a vraiment été un temps long, et que voilà, la pièce telle que là j'ai pu essayer de la jouer pour le dispositif binaural, ça m'intéressait aussi vraiment votre proposition, parce que dans Prosodie, dans mon projet, il y a quelque chose de très immersif, mais c'est vrai que c'est un espèce de pari de voir aussi comment l'écriture elle tient comme ça sur une longueur sèche en fait un peu, et que le sujet il est loin d'être épuisé, et que comme je diffuse en direct, je fais jamais complètement la même chose, enfin voilà, et puis que la tête artificielle, c'est il y a de quoi essayer vraiment plein d'autres choses que ce qu'on a pu faire, mais voilà, c'est super.
Oh, mais c'était bien quand même.
Oui, c'est très bien. Non, ça permettait d'essayer plein de choses.
Cette tête artificielle, ce micro qui nous accompagne à chaque fois dans ces épisodes de Machin Machine. Merci beaucoup Émilie Mousset d'avoir partagé avec nous cette étape. Donc on a compris, c'est une étape, mais en tout cas déjà bien aboutie de Prosodie. L'installation est à guetter ici ou là. On mettra les bons liens sur le site de Supersonic sur franceculture.fr. Et donc à venir peut-être donc à ce travail documentaire, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci, à bientôt.
Merci.
Illusion of the Fury, c'est le début de cet opéra composé par Harry Partch, un poète-compositeur américain qui inventait ses propres instruments, disparu en 1974. Et il se trouve que The Illusion of the Fury est repris le 18 juin prochain à La Villette dans le cadre du festival Manifest. Manifest, c'est le festival de l'IRCAM, lieu du croisement de la composition et de la technologie. Le festival en question vient de commencer et va durer jusqu'au 2 juillet. Il y a quelques autres moments marquants à venir, souvent autour de la question de l'art pauvre, de l'arte povera qui est à l'honneur au Centre Pompidou, juste à côté de l'IRCAM, à partir de jeudi prochain et jusqu'à la fin du mois d'août. Art pauvre, matériaux faits soi-même, matière amoindrie, minimalisme matériel. Il y aura, par exemple, le 18 juin aussi, dans le cadre des manifestes, une journée autour de l'innovation du côté de la lutherie instrumentale, donc à l'IRCAM même, une soirée en présence de William Burroughs, entre guillemets, en hommage au poète de la Beat Generation autour du texte Providence d'Olivier Cadio, puis Secret Heroes, un quatuor électro autour du pianiste Benoît Delbecq, ce sera les deux, le 22 juin au Centre Pompidou, une reprise aussi de la légendaire pièce de Terry Riley, In Si, en do à la Philharmonie de Paris, le 24 juin, une nuit de la percussion le 29 au 104, entre autres, Entre autres, pour connaître la totalité du programme, on ne peut que vous engager à aller sur le site manifeste.ircam.fr. Et si vous écoutez cette émission lors d'une rediffusion, on ne peut que vous engager à aller chercher ici et là des traces de ces rendez-vous, parce que forcément, des traces, il y en a. Et on profite de cette actualité de l'IRCAM et de notre objectif affiché ici même dans Machin Machine, à savoir parler du son en trois dimensions, pour vous inviter, Olivier Verhusfeld, bonsoir.
Bonsoir, merci pour votre invitation.
Mais merci d'être là. Vous êtes chercheur à l'IRCAM, vous êtes responsable de l'équipe espace acoustique et cognitif, et vous êtes le monsieur son 3D de l'IRCAM, on peut le dire comme ça. On s'est déjà rencontré quelques fois ici pour Supersonic ou pour l'atelier du son. Est-ce que le son en 3D, son trois dimensions, ça veut dire, avant toute chose, faire semblant?
Pas uniquement. En fait, on va s'intéresser à la fois aux notions d'espace dans sa dimension, dans ses manifestations réelles, espace sonore, bien sûr, dans ses manifestations réelles, mais aussi virtuelles. Donc, il s'agit de propositions qui peuvent viser, effectivement, soit le réalisme, soit recréer, de toute façon, des mondes dans lesquels on va exploiter cette dimension sonore, éventuellement de manière interactive, c'est-à-dire dans des applications proches de la réalité virtuelle qui vont mettre en jeu l'interaction entre le corps, l'audition et l'espace. Voilà, dans des propositions qui peuvent être tout à fait imaginaires.
Donc c'est pas qu'une question d'illusion, parce que quand on dit illusion, ça veut dire reprendre le modèle de la réalité. Vous vous dites, avec la question du son en trois dimensions, on peut créer d'autres repères, en fait, c'est ça que vous voulez dire?
Oui, l'idée c'est vraiment de percevoir le sonore à partir de nouvelles médiations qui vont mettre en jeu des effets de spatialisation. Et ces effets d'espace, eh bien, sont prégnants non seulement pour l'audition, mais quand on perçoit l'espace, on le perçoit aussi à travers d'autres dimensions sensorielles, la vision, bien sûr, mais également, on se meut dans l'espace. Mm-hmm. Et donc, c'est à travers l'interaction de ces différentes dimensions sensorielles qu'on se fait une représentation du monde. Mm-hmm. Voilà. Et donc, alors évidemment, on s'intéresse de manière majoritaire à la dimension sonore et aux technologies qui l'accompagnent, de sorte à enrichir les propositions.
Tout à l'heure, Émilie Mousset a parlé plusieurs fois de la question de la vibration, de la question du corps, en l'occurrence pour les tout petits enfants, voire pour les bébés dans leur manière de recevoir le son. La question du corps, elle est présente, elle est même très présente dans vos recherches, j'ai l'impression.
Oui, alors elle est présente parce que encore une fois, les propositions technologiques permettent de nos jours d'enrichir les propositions. Il ne s'agit plus uniquement d'écouter sur deux enceintes ou au casque, mais également d'interagir avec le lieu, de se mettre en mouvement et de retrouver ce qui existe dans la réalité, à savoir le fait que lorsque nous nous déplaçons dans un espace, les modifications des indices acoustiques des sources sonores vont se faire de manière cohérente avec nos mouvements. Nous sommes conscients de nos propres mouvements, on appelle ça la proprioception, et donc notre cerveau va être capable d'analyser la cohérence entre nos propres mouvements et l'influence sur les indices acoustiques des sources qui nous entourent.
Est-ce que vous pensez que l'engouement actuel pour, en particulier ce qu'on appelle les casques de réalité virtuelle, donc ces casques qu'on met sur les yeux et on est immergé dans un autre monde, on tourne la tête et on a l'impression d'être ailleurs. Évidemment, c'est accompagné de technologies sonores qui accompagnent la question de l'image. Est-ce que ces choses-là existent grâce à vos travaux à l'IRCAM?
Grâce à un ensemble de travaux, pas uniquement à l'IRCAM, mais dans le monde, il y a effectivement une voie de recherche qui a été lancée il y a une bonne vingtaine d'années maintenant sur les technologies binaurales, donc qui permet de reconstruire des mondes 3D au casque. Il y a un enjeu extrêmement important et voilà, maintenant ce sont des technologies qui sont arrivées à maturité dans différents laboratoires de recherche et qui sont maintenant de nature à pouvoir être déployés à grande échelle par le monde industriel, qu'il s'agisse de la production de contenu, de la diffusion sonore, de l'intégration de techniques de captation du geste pour capter l'orientation de la tête en temps réel et permettre d'asservir en fait le contenu sonore, de rafraîchir le contenu sonore en fonction de l'orientation de la tête instantanée. Ce sont des dispositifs qui existent sur nos téléphones portables. On a des capteurs inertielles qui permettent voilà de repérer un geste. Et donc là, on peut, avec ce type de système, regarder des vidéos 360. Mm-hmm. Donc en fonction de notre orientation, eh bien l'image va se rafraîchir pour présenter l'avant,
paysage qui évolue,
le paysage ouais. panoramique depuis la direction frontale ou sur les côtés ou vers l'arrière. Et le monde sonore peut suivre l'image de manière cohérente.
Alors vous dirigez, Olivier Rusfeld, je disais, l'équipe espace acoustique et cognitif à l'IRCAM. Donc vous participez à ce titre-là, vous et votre équipe, à plusieurs projets de recherche ouais. en cours. Notamment, j'ai vu le projet AudioSelf. C'est quoi le projet AudioSelf ?
Le projet AudioSelf, c'est donc un projet qui est mené avec le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, qui nous a invités à proposer en fait des expériences qui sont menées en gravité, en microgravité, dans l'avion qui est mis à disposition par Novespace. Alors l'idée est
ah oui, c'est l'avion qui permet d'être en apesanteur voilà, pendant 10 secondes,
pendant une vingtaine de secondes. Alors ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que notre perception du monde ne se fait pas uniquement à travers la vision. On pense quand on pense 3D, on pense vision essentiellement au départ, mais elle se fait également à travers l'audition, elle se fait également à travers notre sens vestibulaire, notre sens de l'équilibre qui est dont l'ancrage est fourni par l'apesanteur. Voilà. Et donc l'idée, c'est de voir dans quelle mesure, en état de microgravité, d'apesanteur, eh bien nos sensations de l'espace, d'une manière générale, vont s'en trouver affectées ou vont être, disons, sujettes à des expériences un petit peu particulières qu'on appelle des sorties de corps, c'est-à-dire au sens où, dans la réalité de tous les jours, notre repère spatial est centré sur notre corps, sauf dans certaines pathologies, en fait, où la personne peut avoir la sensation que son repère est en fait extérieur à son corps. Et donc là, dans ces situations extrêmes, on peut imaginer que l'absence de gravité va faciliter le transfert en fait de ce repère spatial depuis son corps vers un autre.
Et dans ce type de projet de recherche, on comprend pourquoi votre équipe s'appelle espace acoustique et cognitif. Voilà, puisque la question du cerveau, la question de comment acquérir le savoir et les repères, et évidemment ça rentre en ligne de compte. Alors évidemment à l'IRCAM, il y a des chercheurs, on l'a dit, il y a des compositeurs aussi, des compositeurs qui se saisissent de la question de l'espace, la question de la trois dimensions, représenter la troisième dimension dans les écoute, en particulier la compositrice autrichienne Olga Neuwirth, dont on va écouter l'extrait, le début d'une pièce, les Encantadas, qui ont été enregistrées en octobre dernier à la Philharmonie de Paris. C'était de la musique dans le cadre du festival d'automne. C'est le travail avec les compositeurs, c'est aussi central dans votre activité.
Oui, bien sûr. Alors là, en l'occurrence, c'est mon collègue Markus Neusternik, qui avait déjà collaboré par le passé avec Olga Neuwirth, qui est donc, c'est Markus Neusternik qui a été le relais entre les travaux de l'équipe et la compositrice Olga Neuwirth, en collaboration évidemment avec les équipes de production à l'IRCAM, les réalisateurs d'informatique musicale Gilbert Nounou et ingénieur du son Sylvain Cadars.
Voilà.
Dans ce travail, en fait, l'idée était vraiment peut-être d'une mise en abîme de l'espace. Alors il s'agit à la fois de créer l'illusion de l'espace, mais c'est plutôt un espace dans l'espace, puisque à plusieurs titres, la compositrice Olga Neuwirth a voulu recréer l'espace de l'église San Lorenzo à Venise, qui est l'église dans laquelle Luigi Nono avait créé sa pièce Prometeo.
Et elle l'avait entendue alors qu'elle avait 16 ans à ce moment-là.
Voilà, et donc cette pièce était également un travail de collaboration avec l'architecte Renzo Piano, qui avait créé un dispositif spatial avec les différents musiciens déployés dans l'espace, autour et en hauteur, autour du public. Et donc l'idée, c'était de retrouver cette empreinte particulière de ce lieu qui a vraiment une acoustique extrêmement complexe, extrêmement particulière, et de la transposer dans l'espace du concert. Donc voilà, c'est un espace dans l'espace avec des perspectives extrêmement nombreuses.
Donc on va écouter le début de les Encantadas, pour préciser, c'est interprété par l'ensemble intercontemporain, qui est cet ensemble qui a été fondé par Pierre Boulez, spécialisé dans l'interprétation d'œuvres contemporaines et qui travaille souvent avec l'IRCAM, l'ensemble intercontemporain qui intègre la question de la technologie dans son interprétation. À l'origine de cette pièce d'Olga Neuwirth, il y a un livre de Herman Melville qui a pour leur sujet un ensemble d'îles qui se trouvent dans l'archipel des Galapagos et que les Espagnols désignaient donc sous le nom de Las Encantadas. Donc, les Encantadas, l'œuvre d'Olga Neuwirth, ajoute une dimension vénitienne à tout ça. On écoute en relief, donc à vos casques, à vos oreillettes. Merci Olivier Verhusfeld d'être passé par ici.
Merci à vous.
C'est l'ensemble intercontemporain en octobre dernier qui interprétait en relief les Encantadas d'Olga Neuwirth. C'était le début, c'est ainsi que se termine Machin Machine numéro 7, hors série de l'émission Supersonique sur France Culture. Tous les commentaires, la réécoute, les podcasts, les compléments, ça se retrouve sur franceculture.fr où vous trouvez aussi des vidéos de l'émission. L'équipe de ce soir, c'était Inès De Bruyne à la préparation et à la coordination, Véronique Lamandour à la réalisation, l'équipe sonore, c'était Bruno Mourlan et Yacine Monet, et l'équipe vidéo était dirigée par Jean-Michel Després. Pour l'instant, vous retrouvez les Nuits de France Culture, et nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.